Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis avocat.
Écrivaine.
Sans emploi.
Psychologue.
Je suis chimiste.
Musicien.
Économiste.
Je suis indépendante parce que j'aurais clairement pas pu être salariée.
Je me sens assez à ma place dans mon travail. En tout cas pour le moment,
je me pose beaucoup de questions.
Je suis spécialiste en communication et mon rêve c'est d'être youtubeuse.
Pour donner plus de sens à mon travail, j'ai changé pour les hébergements sociaux.
Je pense que je vais changer en tout cas un million de fois de métier dans ma vie. En tout cas, c'est le but.
Le travail. Il occupe une place centrale dans nos vies. Bien plus qu'un moyen de subsistance, il définit souvent notre place dans la société. Il peut être un espace de relation, de reconnaissance, de rêve, de questionnement, de souffrance parfois, et bien souvent une part de notre identité. À la croisée des changements sociaux, politiques et technologiques, sa forme et son contenu ne cessent d'évoluer. Face au bouleversement climatique, certains et certaines se questionnent, cherchent à redonner du sens à leur pratique en changeant de voie ou en transformant leurs gestes. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer notre rapport au travail dans un monde qui bouge. Pourquoi certaines personnes changent-elles de voie ou leur manière de travailler ? Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne.
Si vous entamez une conversation avec quelqu'un, souvent on vous demande ce que vous faites. C'est assez rapidement. Et puis toi, tu fais quoi dans la vie ?
Elle, c'est Sabrina Tacchini, psychologue de l'orientation et doctorante à l'Université de Lausanne. Entre pratique et recherche, elle consacre aujourd'hui sa thèse à celles et ceux qui transforment leur métier pour les rendre plus durables. Un thème qui l'habite aussi de l'intérieur. Car avant d'être psychologue, elle a travaillé comme laborantine en chimie dans une multinationale. Face aux objectifs de performance et de rentabilité qu'on lui impose, elle questionne peu à peu le sens et l'impact de son travail. À l'aube de ses 30 ans, elle change alors de voie et se lance en psychologie de l'orientation.
Je trouvais que le monde du travail, c'était un endroit où on pouvait vraiment voir différentes problématiques. C'est hyper central aujourd'hui parce que toutes nos sociétés, en tout cas ici en Suisse, sont organisées autour du travail. Ça reste aussi quelque chose qui est en interaction avec la société, les collectivités et le monde économique. Du coup, ça met beaucoup de pression sur les individus, sur les gens, sur les collectivités, sur les politiques aussi. On a un salaire, le pouvoir d'achat, enfin, tout est lié. Après, c'est aussi un endroit où on a accès à une assurance chômage, par exemple, à une assurance invalidité. On cotise pour l'AVS. Ça arrive aussi sans travail, enfin sans insertion sur le premier marché de l'emploi, comme on appelle. Mais c'est beaucoup plus difficile.
Le travail, c'est un peu comme une sorte de colonne vertébrale dans notre organisation sociale et économique. Et en même temps, on a parfois l'impression que tout bouge, que les parcours ne sont plus linéaires, que les métiers évoluent, disparaissent, se transforment. On entend souvent que plus personne ne fera le même métier toute sa vie. Et moi-même, je ne serais pas en train de vous parler si je n'avais pas changé de voie. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que disent les chiffres concrètement ? Selon l'Office fédéral de la statistique, une personne sur cinq qui exerçait une activité professionnelle en 2023 a quitté son poste en l'espace d'un an. Parmi elles, environ 13% ont changé d'emploi, tandis que près de 7% ont perdu le leur ou quitté le marché du travail. Si on ne sait pas exactement ce qui motive ces changements, ces données sous-entendent quand même que les parcours professionnels sont loin d'être figés. J'ai donc demandé à la chercheuse comment les interpréter.
Là derrière, il y a beaucoup de phénomènes. Alors, on est encore sur des statistiques d'après Covid. J'imagine que il y a eu des emplois qui ont été beaucoup touchés, comme le tourisme, la restauration, avec des gens qui ne pouvaient plus exercer leur métier et qui en ont fait un autre. Alors, je dis pas que le Covid a généré beaucoup de... mais a accéléré des phénomènes qui étaient déjà là avant. Dans ces statistiques, il y a certainement des gens qui ont changé de poste au sein même de l'entreprise. Il y a des gens qui ont certainement perdu leur travail et du coup qui sont dans les statistiques plutôt du chômage. Des gens avec des problèmes de santé qui ne peuvent plus exercer leur travail et qui sont dans un long processus auprès de l'assurance invalidité. Peut-être des personnes sont parties à l'étranger ou ont fait le choix de garder, enfin, d'être à la maison pour les enfants pendant un temps. Aussi, on voit, enfin, il y a beaucoup plus d'emplois à durée déterminée et probablement aussi une diminution de la fidélité chez les employeurs. Ça, on voit par contre que ça diminue. Hein. J'ai vu que c'était 5 à 6 ans avant de changer d'emploi. Et après, ben, toutes les mutations qui sont en route depuis les années 1960, 1950, où on a vu ces révolutions, hein, comme on appelle les révolutions industrielles successives, là, l'automatisation, la robotisation, la mondialisation, les changements démographiques aussi, la migration. Plus récemment, les diverses crises économiques où on a vu le contenu et la forme du travail changer. Hein. Alors, ça touche un peu moins la Suisse, mais c'est ce travail à la demande, du clic, partiel, l'ubérisation, accumulation de différents employeurs. Le travail indépendant avait toujours existé, mais là, on voit parfois aussi des gens qui ont un emploi et un emploi indépendant. Qu'on nous ait imposé aussi l'IA générative fait qu'on a énormément de changements de pratiques, des rôles ou des fonctions qu'on ne pensait pas pouvoir être automatisables le deviennent, quoi.
Face aux évolutions sociales, économiques et technologiques, la forme et le contenu du travail ont donc évolué et impactent probablement la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Mais ce que montrent aussi ces données, c'est que ce sont surtout les jeunes qui changent d'emploi. Du coup, au-delà des transformations dont elle vient de me parler, je me demande si c'est plus largement notre rapport au travail qui est en train de changer.
Alors, ça, c'est une hypothèse qu'on a, nous, quand on a travaillé sur les questions socio-écologiques. C'est que beaucoup d'emplois maintenant, beaucoup de travail d'emplois, et surtout probablement aussi en Suisse romande, parce qu'on est un endroit assez tertiarisé, on génère des choses qui probablement n'ont plus aucune finalité. Vendre plein de combines dont personne n'a besoin, ou si c'est des micro-tâches, c'est-à-dire bien saucissonnées, puis qu'on ne voit pas la finalité, ou si la finalité c'est vraiment le profit des actionnaires, ou encore faire plus de chiffre d'affaires d'année en année. Voilà, je pense que c'est une des raisons qui fait que, on pourrait dire que les jeunes ne se précipitent pas, en tout cas pour se fixer sur le marché de l'emploi tel que pourrait aurait pu être nos familles. On n'est plus dans des enjeux de survie, avec chez les jeunes personnes aussi un allongement du temps d'études et puis des envies d'exploration beaucoup plus grandes. Là, on voit quand même des jeunes personnes jusqu'à, je sais pas, 25-30 ans qui explorent, qui profitent de se former et qui sont moins attachés ou en tout cas moins pressurisés sur le fait de trouver un emploi tout de suite. Et en plus, probablement qu'ils ont vu leurs parents fatigués en rentrant du travail. Parce que là, le dernier observatoire Travail Suisse montre que 80% des gens, quand ils rentrent à la maison, ils sont lessivés par moment et n'arrivent plus à faire les choses qui profitent avec sa famille ou faire, je sais pas, ce qu'on devrait faire quand on rentre du travail.
Perte de finalité, objectifs chiffrés, tâches fragmentées. Quand le travail est déconnecté, il peut sembler vide de sens. Pourtant, trouver du sens, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Quand on ne voit plus la valeur ou la direction de ce qu'on fait, ça peut sérieusement nous bousculer. On sait aujourd'hui, par exemple, que cela peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale, état dépressif, dépendance ou encore pensée suicidaire. Et forcément, quand cette perte de sens touche l'activité qui occupe une grande partie de nos journées, l'équilibre peut devenir fragile. En psychologie, on parle par exemple de burn-out, une forme d'épuisement professionnel liée à un sentiment de non-sens, voire d'absurdité. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, le sens au travail ?
Il y a de nombreuses manières de définir le sens au travail. Il y a le sens, on va dire la direction, mais ce n'est pas tellement ça qu'on dit quand on dit il y a une perte de sens. Hein, ce n'est pas vraiment une perte de direction, mais c'est plutôt perte de la finalité des choses, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt être utile pour quelque chose de plus grand que moi ou socialement, pouvoir me développer, pouvoir développer mes compétences par exemple, et puis que ça soit sensé dans le sens où qu'il n'y ait pas de conflit éthique ou que je puisse faire mon travail de manière correcte et que je ne porte pas d'atteinte à l'environnement ou à quelqu'un d'autre. Après, il y a la question que ce soit utile et comme comme on ne se pose pas la question de la finalité des choses, on peut arriver à que ce soit vraiment plus utile socialement ou que ce soit même délétère pour le vivant, par exemple. Et puis, la cohérence. Il y a des emplois où on vous demande de faire des choses qui ne sont pas OK, où on ne vous donne pas les moyens de faire votre travail bien. On vous dit, ben voilà, l'année prochaine, tu vas rendre ces échantillons un demi-jour en moins. Voilà. Et du coup, sans rien vous expliquer, et on ne vous donne pas les moyens, on ne vous donne pas plus de temps. Tout ça avec un reporting qui est devenu impressionnant, quoi. Tout est matière à à statistiques, à remplir des rapports d'activité. Et pour certaines personnes, ça devient hyper compliqué à gérer ça, surtout si vous n'avez pas choisi cette manière-là. On parle beaucoup de crise de sens ou du sens, en tout cas dans les médias. Après, nous, dans les chiffres, on a très peu d'études en Suisse par rapport à ça. Alors, on connaît le stress au travail, le désengagement, la satisfaction de vie ou pas, mais au niveau du sens, c'est-à-dire le sens du travail, ça reste assez peu exploré. Pourtant, c'est quand même une ressource psychologique, le sens. Néanmoins, on le voit dans les journaux et des études en France montrent quand même qu'il y a certains emplois où les gens se désengagent et ont perdu du sens. Par exemple, le sondage Gallup dirait qu'on est à peu près 70-80% de gens désengagés. Ça veut dire que quelqu'un vient au travail, mais vous, c'est vide à l'intérieur ou pas très motivé. Se désengager est une manière de se protéger. Hein. C'est-à-dire, OK, je viens, je fais mes heures, entre deux, j'essaye de pas trop déprimer. Mais c'est ça, les problèmes qu'on peut avoir, c'est avoir des atteintes à la santé psychique, à la santé physique aussi. Hein.
Quand notre travail nous semble vide de sens, on peut avoir envie de tout changer, de se reconvertir, de repartir à zéro, de tout plaquer et de prendre une autre direction. Et ça, la chercheuse l'a souvent observé dans sa pratique clinique.
C'est vrai que quand j'étais conseillère en orientation, les gens arrivaient en disant « mais ça fait plus de sens pour moi ». Ah, ça fait plus de sens d'avoir un métier qui est déconnecté. Je fais que des trucs sur un ordinateur. Et moi, j'aimerais. Et souvent, c'était ça. J'aimerais plus de liens. Alors souvent, c'était j'aimerais refaire une formation. J'aimerais changer de métier. Donc voilà, on repart à neuf. Comme ça, on est sûr que tout va bien. Puis quand on faisait vraiment des bilans, c'était beaucoup plus nuancé. Parfois, c'était pas forcément le métier ou la formation qui coinçait, mais c'était l'endroit où l'endroit était la profession exercée. C'est-à-dire un conflit de valeurs ou des problèmes relationnels ou des changements tellement fréquents que ça sature. Et quand on faisait un peu le tri comme ça dans un processus d'orientation, souvent on arrivait quand même à la situation qu'il fallait peut-être juste changer d'entreprise et pas forcément tout jeter le bébé avec l'eau du bain ou de peut-être faire des adaptations sur le poste, sur la manière dont on effectue ses tâches et pas tout changer. Tout changer en Suisse, quand on a été employé et qu'on a une famille ou une charge financière, ça devient extrêmement difficile parce que tout repose sur les épaules individuelles. Donc on n'a pas de crédit de formation ou c'est super dur de recommencer. Parfois, malheureusement, la situation de vie et la situation financière ne permettaient pas de faire une reconversion. Mais on arrivait après aussi à travailler comment est-ce que la personne fait des aménagements dans son poste ou change d'entreprise aussi, ça c'était aussi possible. Ou alors diminue son temps de travail, s'implique dans d'autres sphères parce que ça peut être aussi une manière de déconstruire aussi le travail. Comment est-ce que je peux changer mon mode de vie pour travailler moins et ensuite m'investir ailleurs qui serait plus épanouissant et déconstruire cette logique qui est je me décris par mon travail, je travaille à fond. Parce qu'on a aussi beaucoup de représentations par rapport à ça, à la performance, gravir les échelons, avoir plus de salaire. Enfin, c'est aussi tout un mindset qui est là, qui nous pousse à ça, alors que peut-être pas. Peut-être qu'on peut faire autrement.
Faire autrement. Quand j'écoute Sabrina, je ne peux m'empêcher de penser que la perte de sens au travail n'est pas qu'une question individuelle. Parce qu'il s'inscrit dans un ensemble de représentations, de croyances, de normes, et dans une certaine manière de voir le monde. Pour la chercheuse, le discours dominant qui prône par exemple une croissance économique à tout prix façonne forcément le lien que nous avons avec lui.
On est des maniaques de l'augmentation du produit intérieur brut, donc si c'est pas productif, voilà, ça sert à pas grand-chose. Vous pouvez faire un super gâteau, si vous n'allez pas le vendre, il va avoir beaucoup moins de valeur dans la représentation des gens. Nos politiques, les financements, comment les échanges marchands sont menés au niveau mondial sont dans cette logique de la croissance. Donc il n'y a pas d'incitation typiquement à développer un modèle économique basé sur l'économie sociale et solidaire. C'est un problème vicieux, c'est hyper dur à enlever une prise parce qu'en fait on ne sait pas exactement déjà quelle prise enlever. Et puis, si cette prise ne va pas avoir des autres impacts, ou si même en enlevant cette prise, on ne va pas faire encore pire qu'avant, à nouveau, on ne se pose pas la question de la finalité de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, quelle société on veut. Et du coup, ça devient insensé pour beaucoup, beaucoup de gens.
Difficile alors de penser son travail comme détaché de ce qui se joue à l'échelle collective. Par exemple, quand on sait que 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées, est-ce que ce n'est pas un peu normal de se sentir parfois perdu? Aujourd'hui, de nombreuses professions ont effectivement un impact non négligeable sur les écosystèmes. Mais si le travail est à la fois une partie du problème, il pourrait aussi être un bout de la solution, et constituerait même, selon la chercheuse, un levier d'action privilégié. C'est justement la question qui traverse sa thèse. Comment trouver une voie professionnelle alignée avec les enjeux du XXIe siècle?
On part du principe que tous les métiers doivent changer si on veut être beaucoup moins impactant sur les limites écologiques, sur le plafond écologique. Il y a plein de gens dont différentes pratiques professionnelles qui font en sorte que les gestes soient moins impactants, qui testent d'autres modèles économiques, d'autres manières de faire des échanges. Moi, je me suis vraiment intéressée à la transition vers des pratiques professionnelles qui soient plus durables, mais en termes écologiques.
Quand on pense transition socio-écologique, on imagine souvent des changements radicaux. Un cadre de la finance devenu boulanger, celles et ceux qui plaquent tout pour aller s'installer en campagne et travailler en permaculture. Mais en observant ce qui se passait autour d'elle, la chercheuse a réalisé que ces transitions pouvaient aussi se jouer au cœur même d'un métier. Un architecte qui choisit de rénover plutôt que de construire. Un guide de montagne qui renonce à l'héliski. Ou encore une médecin qui prend le temps d'écouter avant de prescrire, consciente de l'empreinte écologique des médicaments. Pour proposer de nouveaux modèles d'orientation, elle est donc partie à leur rencontre. Au travers de focus group, elle a interrogé des personnes de différents horizons. Finance, biotechnologie, enseignement, psychologie, agriculture, santé ou encore informatique. L'objectif? Comprendre leurs motivations et les ressources qu'ils et elles ont mobilisées pour transformer leurs pratiques.
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que peu importe les métiers dont ces personnes venaient, déjà, ils avaient des énormes connaissances au niveau scientifique, des sciences, par exemple, du climat, la biodiversité, les sciences économiques, l'histoire économique, la santé, un énorme background scientifique et de connaissances historiques. Souvent apprises aussi en autodidacte ou avec des podcasts. Ce n'était pas des formations que ces personnes ont eues dans le cadre de leur métier. Hein. On a vu aussi qu'il y avait cette grande préoccupation de ce qu'on pourrait appeler justice sociale. Alors ça peut être autant nord-sud qu'à l'intérieur du pays, ou d'avoir les privilèges, moi ou pas. Enfin voilà, il y a cette notion de privilège, cette notion de rapport de pouvoir des fois économique ou social. Il y avait aussi souvent un peu cette question, alors qu'on peut appeler la nature, mais voilà, de préoccupation par rapport au milieu de vie, au vivant, que ce soit un peu quelque chose de l'ordre de pas impacter, que les gestes professionnels ou que tout ce qui est fait n'impacte pas trop les milieux de vie. On s'est aussi rendu compte que les gens avaient une grande critique des modèles économiques. Donc, il y avait des entreprises qui disaient « Non, mais ça, j'irai jamais. Ah, j'y étais, je suis partie. » La question aussi de l'engagement, parce que toutes les personnes avaient à quelque part un engagement pour faire changer les choses, leurs pratiques au niveau du travail, mais avec ce côté qui était « faut quand même que je fasse attention », parce que souvent c'était des gens aussi qui se retrouvaient tout seuls à militer pour je sais pas, une cafétéria plus végétarienne ou à ce qu'on utilise moins de consommables ou à ce que des règles changent. Et du coup, se retrouvait souvent assez seul. Et voilà, il y avait toujours ce côté à faire attention. Je peux donner un peu, mais pas trop. Et du coup, un peu un équilibre. Du coup, ce n'est pas équilibre vie professionnelle, vie privée, comme on peut voir dans les journaux, mais vie d'engagement privé et professionnel. Donc, il y avait ce triptyque-là que ces gens considéraient. Et puis, la question du sens, voilà. La question du sens, de la cohérence, ça, c'était dans tous les discours que j'ai reconnus. Et c'est vrai que, globalement, même si c'était difficile quand même pour ces personnes, bah, le fait que ce soit vraiment utile, sensé et raisonnable, ça donnait vraiment de la motivation à continuer, quoi. Et c'était très porteur. Transformer ses pratiques, c'est aussi dire « mais je veux que ça change, j'ai envie que les choses changent ». Et souvent, en tout cas, les personnes que j'ai vues dans ma recherche, quand elles s'engagent aussi dans la transformation des modes de vie. Elles s'engagent aussi dans une forme de lobbying, que ce soit politique ou dans les associations des métiers ou dans la formation. Donc il y a un engagement qui dépasse le fait d'être employé ou d'être un acteur économique. Et c'est aussi probablement une forme de résistance dans le sens où la logique des échanges marchands, la logique à dominance capitaliste qu'on vit, n'est pas durable. Et du coup, c'est aussi de dire, mais moi, j'ai envie de faire différemment.
Si ces personnes ont transformé leur métier, c'est avant tout pour être en accord avec leurs valeurs et les enjeux contemporains. Un engagement qui, en retour, donne du sens à leur activité. C'est un peu comme un double mouvement qui permet à la fois de donner du sens et d'en trouver. Ce que la recherche de Sabrina montre aussi, c'est que l'engagement n'est pas réservé à un corps de métier en particulier. Pour agir, pas besoin de se reconvertir ou de changer drastiquement de voie. Ce qui compte, ce sont nos compétences et la manière ou l'endroit où nous souhaitons les mobiliser.
On a de la peine à faire ce lien entre ma pratique professionnelle ou mon activité économique, quels impacts ça a. La plupart des gens, je pense que ne s'imaginent même pas qu'ils pourraient se faire quelque chose. Parce que dans nos têtes, c'est un peu genre, ah ouais, t'as envie de travailler dans l'environnement, ben, tu peux choisir les géosciences ou tu peux poser des panneaux solaires ou travailler dans le recyclage. On a un peu ces stéréotypes-là. Mais on a beaucoup de peine à imaginer que peut-être les gens qui travaillent comme psychologues peuvent changer des choses, les médecins, les architectes, ou toute personne au travail ont des moyens de changer, autres que mettre une poubelle à recycler le papier. Les études sur le sens montrent que quand on fait quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas juste moi, ma petite personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux m'épanouir dans mon travail, c'est vraiment un enjeu de santé, quoi, santé mentale, de se préoccuper que de soi et uniquement de soi. C'est probablement des fois ça qui fait que la perte de sens arrive. Au vu de ce qu'on voit des transitions successives qu'on est amené à vivre, peut-être le métier n'est plus si important que ça. En tout cas, moins important que la formation ou les compétences que j'ai acquises et où est-ce que j'ai envie de mettre du sens à un engagement. Parce qu'en fait, de s'engager quelque part met du sens. Notre questionnement, c'est plutôt pas dire qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, c'est plutôt de dire mais à quel enjeu j'ai envie de participer, où est-ce que j'aimerais m'engager autant professionnellement qu'au niveau citoyen ou citoyenne. On renverse un peu la question, dire ben, voilà, il y a ça, les enjeux du 21e siècle sont ceux-là, où est-ce que j'ai envie de mettre ma personne, mes compétences, me former, à quel enjeu j'ai envie de participer. Vu que c'est des problématiques systémiques et que à tous les niveaux, il doit y avoir des changements. Si on ne s'organise pas ensemble, ça devient très, très compliqué. Alors, si on veut que ça prenne un peu de l'ampleur, il y a des endroits au niveau des politiques, il faut que ça change, au niveau des associations des métiers, au niveau des formations. Et avec la grande question, pour quelle finalité, quelle société on veut ? C'est un énorme chantier dont on ne verra pas le bout. Autant être ensemble.
Avoir du sens, en termes de meaning, comme on dirait en anglais, est quelque chose de profondément humain. Dans un monde en crise, ce besoin devient encore plus saillant. Si certaines personnes changent de voie ou leur pratique, c'est parfois parce que leur métier, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est plus cohérent avec le monde qui nous entoure. Le travail, parce qu'il occupe une place centrale dans nos vies, devient alors un espace privilégié pour se questionner et faire bouger les lignes. Et ce que montre la recherche de Sabrina Tacchini, c'est qu'on peut agir de là où on est. Mais cela ne veut pas dire que tout repose sur les individus. Les organisations, les institutions, les modèles économiques doivent eux aussi évoluer pour rendre ces engagements possibles. Car au fond, nous avons tout à y gagner. En santé, en qualité de vie, en liens sociaux.
Je pense vraiment que si on transforme nos activités pour quelque chose de plus durable, ça va être agréable, beaucoup plus agréable, beaucoup moins insensé et beaucoup plus durable.
Car repenser le travail, c'est aussi interroger notre manière d'habiter le monde. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Sabrina Tacchini, doctorante en psychologie à l'UNIL, dont le parcours riche a permis de nourrir cet épisode.